Ce matin, je vais vous demander de faire un très gros effort d'imagination. Nous allons quitter à la fois la Neuville et le deuxième dimanche de l'Avent pour nous rendre aux USA, au cœur de l'été 1963. Imaginez, c'est le 28 août. Vous êtes à Washington, D.C., devant le Lincoln Memorial. Au terme de la marche pour l'emploi et la liberté, le pasteur Martin Luther King délivre un discours qui fera date. Écoutez ces quelques extraits. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour toute vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis, les chemins tortueux redressés, la gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance, c'est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud. Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. La force qui se dégage de ce discours a pour moi quelque chose de profondément émouvant. Et puis en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être quand même un peu envieuse de ce formidable talent d'orateur. Alors il y a la forme, c'est vrai, mais il y a aussi et surtout le fond. Ce discours de Martin Luther King a fait date, il dit à la fois l'espérance, la conviction que les choses peuvent changer, que le racisme, la ségrégation sont appelés à disparaître. Si ce matin, en ce deuxième dimanche de l'Avent, j'ai choisi de vous rappeler les mots de Martin Luther King, c'est parce que je crois que son message fait écho au message du prophète Michée. Il est traversé du même souffle, de la même espérance. Aujourd'hui, nous ne rêvons plus guère. Parmi nous, beaucoup sont fatigués, désabusés, peut-être un peu inquiet. Dans nombre de sociétés de nos villes et villages, comme dans nos paroisses, on peine à trouver du monde. Rares sont celles et ceux qui sont encore d'accord de s'engager, d'accord de donner un peu, beaucoup de leur temps, de leur talent. C'est le règne du chacun pour soi, on se calfeutre dans sa coquille et on attend. Oui, mais quoi? Mais qui? Les paroles du prophète Michée ont un accent étonnamment actuel, peut-être parce qu'à certains égards, l'époque de Michée ressemble à la nôtre. C'est un temps où l'espérance semble s'être éteinte. Michée a vécu il y a très longtemps, c'était au 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour le peuple d'Israël, ce sont des années dramatiques. L'empire assyrien se fait de plus en plus puissant, de plus en plus menaçant. La ville de Samarie est tombée sous les coups de l'envahisseur, Jérusalem est cernée, partout ce ne sont que bruits de guerre, de bataille, cris de haine, de souffrance. Et c'est alors que Michée se lève et qu'il prend la parole au nom de Dieu. Michée dénonce, il dit la corruption du peuple, son oubli de la parole de Dieu. Et puis dans un même souffle, il annonce la fin des tourments, l'établissement d'un règne de paix et de justice. Oui, pour décrire ce temps, le prophète recourt à des images extrêmement évocatrices qui nous transportent ailleurs. Je vous les rappelle. Le Seigneur sera juge entre des peuples nombreux, l'arbitre de nations puissantes, même au loin. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, et de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne pour les troubler, car la bouche du Seigneur Tout-Puissant a parlé. C'est un monde idyllique que nous décrit Michée. Mais comment faire pour que le rêve devienne réalité, pour que les images prennent vie? Si ces paroles nous touchent au plus profond de nous-mêmes, en même temps, elles nous invitent à regarder notre monde, à le regarder avec des yeux neufs, un regard lucide et sans désespoir. Lorsqu'Israël se débat au cœur de la tourmente, Dieu, par la bouche de son prophète, lui réaffirme son amour. Et il lui en montre la signification toute concrète. Si cette promesse de Dieu, telle que l'a dit Michée, a un côté merveilleux, en même temps, cette promesse, elle nous interroge. Est-elle vraiment fiable? Ou n'est-ce qu'un peu de baume sur les plaies du monde? Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. Les mots chantent, mais ils ne disent de loin pas la réalité de notre monde. La prophétie de Michée est là comme la face claire d'une réalité trop souvent sombre. Elle est comme un trait de lumière dans l'obscurité. Et plus encore que notre espérance, Michée dit l'espérance de Dieu pour nous, pour notre monde. Si Dieu nous apprend l'espérance, s'il nous appelle à mettre en lui notre confiance, c'est d'abord parce qu'il est lui-même confiance et espérance et qu'il nous offre de partager ce qu'il est. Partager la vie de Dieu, dire avec lui son espérance dans et pour notre monde. Voilà ce à quoi nous sommes invités en ce temps de l'Avent, comme dans le quotidien de notre vie. Le chemin est là, il est tout tracé, il ne reste qu'à nous y engager. Et il est vrai pourtant qu'en regardant autour de nous, nous sommes souvent enclins au fatalisme, à la résignation, voire même au désarroi. Parfois, il nous semble que notre monde devient fou, qu'il nous échappe, et que nous n'y comprenons plus grand-chose. À l'époque de Michée, c'est la puissance grandissante et conquérante de l'Empire assyrien qui planait sur le quotidien et devenait menace pour la vie. Aujourd'hui, l'ennemi a changé. Il est peut-être plus sournois. Il y a le dérèglement climatique qui vient remettre en question notre manière de vivre, de consommer, et surtout qui hypothèque notre avenir et celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Quel monde, quelle planète allons-nous leur léguer? Et puis, il y a tous les conflits qui déchirent les peuples, qui jettent tant d'hommes, de femmes, d'enfants sur les routes hasardeuses de l'exil quand ils ne les condamnent pas à mort. Pensons à ce qui se passe en Ukraine, en Israël, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, au Soudan et j'en oublie. Oui, nous sommes souvent un peu désemparés et inquiets. Et nous nous demandons où tout cela va nous mener, parce que nous nous sentons impuissants, bien incapables de faire par nous-mêmes changer les choses. Et c'est dans un temps très semblable au nôtre que Michée le prophète annonce avec conviction, avec force, la venue d'un temps de paix, d'un temps de bonheur avec Dieu. Le Seigneur sera juge entre des peuples nombreux, l'arbitre de nations puissantes même au loin. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. Cette espérance que Michée proclame, cette espérance que Dieu nous offre, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas une idée, certes généreuse, mais sans suite. Sur ce chemin d'espérance, Dieu nous a donné un guide, Jésus le Christ, né dans une étable à Bethléem, mort et ressuscité pour nous. En Jésus, l'espérance de Dieu vient nous toucher, elle vient rejoindre notre monde, et depuis sa venue parmi nous, quelque chose a changé. Notre vie trouve un sens. En Jésus, l'espérance de Dieu pour notre monde, pour nous, cette espérance est devenue chair, elle est devenue vie. Dans à peine plus de 2 semaines, nous allons fêter Noël, la fête de la venue de Jésus dans notre monde, le début d'un temps nouveau. Aujourd'hui, si nous sommes appelés à l'espérance, ce n'est pas en raison de nos forces, de nos capacités, mais bien parce que le premier, Dieu a commencé à espérer pour nous. Et c'est là une espérance qui vit, une espérance qui s'engage. Au fond de nous, nous le savons bien. Nous savons que le monde nous est donné, que notre vie est un bien précieux à conserver, à faire fructifier. Seulement, il arrive aussi que la vie nous malmène et que les événements nous écrasent. C'est dans ces moments-là que nous pouvons placer notre espérance dans la vie de Dieu, lui demander de venir nous insuffler l'énergie, la force qui parfois nous font défaut. Pourtant, n'allez pas mal me comprendre et conclure un peu rapidement que l'espérance de Dieu n'est là que pour nous soutenir lors de passages difficiles. Elle est cela, c'est vrai, mais elle est aussi encore bien plus que cela. Dieu espère pour notre monde sans cesse en révolte contre lui. Il espère pour nos vies, souvent tentées de se passer de lui. Mais cette espérance, c'est à nous maintenant qu'il revient de lui donner vie, de la rendre visible. Nous pouvons aller jusqu'à dire que nous sommes les instruments de Dieu sur terre. Nous sommes ses mains et ses yeux, sa bouche, ses oreilles. C'est par nos actes, c'est par notre engagement quotidien de la foi que nous trouvons notre place sur ce chemin que Jésus est venu ouvrir pour nous. Bien sûr, tout nous le rappelle, nous ne vivons pas encore dans le royaume de Dieu et notre espérance reste fragile. Cela aussi, nous le savons, même s'il nous est parfois difficile de l'accepter. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. Dieu rêve pour nous d'un monde de paix, d'amour, de justice. Qu'est-ce qui nous empêche de rêver avec lui? Qu'est-ce qui nous empêche de devenir ses mains et ses yeux, les témoins actifs de sa volonté pour notre monde? Qu'y a-t-il aujourd'hui pour nous empêcher de participer à l'espérance de Dieu pour notre monde et pour nous? Amen.